Good morning. Connaissant la capacité à Michel à traduire, je me suis demandé si c'était mieux de parler en anglais. Et comme ça, je suis sûr et certain que je conjugue correctement les verbes et j'utilise le bon mot si c'est masculin ou féminin. Mais bon, après je me suis dit, vous allez comprendre quand même. J'espère au moins. Donc parfois je me trompe, je dis là, je devrais dire le. J'ai du mal à conjuguer le troisième personne pluriel. Donc parfois c'est comme si c'est singulier. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça devrait marcher. Je vous invite à vous lever, parce que ça fait un moment qu'on est assis. Vous voyez que vous avez le même problème que nous à l'église. Les chaises devant, ils sont pas aussi bénis que les chaises derrière. C'est pas vrai. Donc si vous êtes caché derrière, vous avez envie de rapprocher un peu pour voir, vous pouvez venir, c'est le moment. Sinon, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Donc, j'ai deux questions. Très rapides. Première question, on fait qui aujourd'hui? Les papas. Donc, si t'es papa, tu peux te lever à nouveau. Donc, ce matin, Dieu a quelque chose à vous dire. Il a un message pour vous. Il a mis quelque chose sur mon cœur pour les papas. Mais pas que pour les papas. Si tu es potentiellement futur papa, papa, tu peux te lever également. Donc tous les hommes. Les futurs papas potentiels, tous les hommes. Voilà. Donc, Callum, tu es un futur homme, tu peux te lever également. Ce message est également pour vous. Si vous avez un papa, vous pouvez vous lever. Et ce message est également pour vous ce matin. Bon. Vous pouvez vous asseoir. Et deuxième question, c'est qui aime les sandwichs? Oui, pas trop, parce qu'on est français, et le sandwich c'est anglais, donc c'est pas terrible, c'est comme l'autre nourriture britannique, hein, c'est pas terrible. Ce matin, on a un petit sandwich. Plutôt, on a la viande. Oh, ça je ne sais pas, les hommes, peut-être c'est la confiture, parce qu'on est plus sucré que salé, souvent, les hommes. Parce qu'il y a des morceaux de paroles que souvent, on voit pas. On connaît les grandes histoires, mais souvent, entre grandes histoires, il y a des petits bijoux. Et on les oublie. Et donc ce matin, c'est un petit bijou. Alors ce matin, c'est Jean 4, 43 à 54. Juste avant, c'est une histoire très connue, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Tout le monde connaît cette histoire de femme samaritaine. Mais on ne va pas parler de ça ce matin. Et juste après, c'est une histoire de l'âne ferme du malade à la piscine de Bethesda qui se fait guérir. Tout le monde connaît cette histoire également. Mais on ne va pas parler de ça non plus. Entre les deux, il y a une petite histoire. On va la lire ensemble. Donc, je ne sais pas si ça se voit suffisamment bien, mais c'est la version seconde 21. Je vous invite à lire avec moi. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Troisième personne, juste du mal. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le prie de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à leur rencontre et lui dit, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent, « C'est hier, à 1 heure de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Amen. Jésus dit au revoir les Samaritains. Après ces 2 jours, c'est les 2 jours qu'il a passé avec eux. Il a rencontré la femme au puits. Il a parlé avec elle. Elle a compris que c'était quelqu'un différent. Elle a compris à la fin que c'était le Messie. Et elle a mis sa foi en lui au point qu'elle a cherché tous ses voisins, toutes les personnes de son village. Et ils sont venus, ils ont demandé à Jésus de rester parmi eux. Il les a accordés 2 jours. Et après ces 2 jours, Jésus partit. Il était toujours sur le chemin pour se rendre en Galilée. Il ne savait pas, par contre, si il allait recevoir le bienvenu en Galilée ou non. Il dit lui-même, on n'est jamais, un prophète n'est jamais honoré dans sa propre patrie. Mais les Galiléens, ils avaient été à la fête avec Jésus à Jérusalem. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont peut-être expérimenté les miracles de Jésus. Et donc, il attendait le retour de Jésus en Galilée. Et donc, il fait bien accueilli là-bas. On voit que c'est un peu le retour vers le futur. Parce que il avait été à Cana il n'y a pas très longtemps. C'était le premier signe miraculeux qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a converti l'eau en vin. Mais même pas n'importe quel vin. C'était pas le vin parisien. C'était le vin de Bordeaux ou de Vallée de Loire. C'était le meilleur vin. Il a changé vraiment l'eau en quelque chose de supernaturellement bien. Et donc, les gens de Cana le connaissaient. Il était reconnu. Il est là. Il est à Cana. Et on apprend que dans un village, une ville qui s'appelle Capernaum, il y avait un officier de roi. Et il y a la crise. C'est quoi la crise? C'est le fils qui est malade. En fait, on voit en verset 46 qu'il est malade, mais on apprend un peu plus tard, il était sur le point de mourir. Donc c'est grave la crise. C'est grave. Officier de roi, quel roi? C'est pas le roi romain, parce qu'en fait, on est en Galilée. Et Galilée, à cette époque, c'était sous l'administration de Hérode. C'était pas administré directement par les Romains, quand le Judée avec Pilate, mais c'était sous un roi qui était nommé. C'était le fils de Hérode le Grand. C'était Hérode Antipas, qui était le roi de Galilée et de Pérée. Et donc, il avait sûrement son siège social à Tibérius, qui était la ville qu'il avait construite, mais Capernaum, c'était tout près. Officier de roi, ça veut dire quelqu'un d'importance, quelqu'un privilégié, quelqu'un qui avait l'autorité, quelqu'un qui avait le droit de demander les choses aux Juifs. Cet homme, un père, il a une crise. Son fils est malade, au point de mourir. Que fit l'officier de roi? D'abord, il a appris que Jésus était venu. Ensuite, il alla lui-même le trouver. C'est bizarre pour moi, ça. C'est l'officier de roi. Il a l'autorité. C'est quelqu'un. C'est pas n'importe qui. Il a des serviteurs. Il a une épouse. Il aurait pu envoyer ses serviteurs en nombre pour ramener Jésus à la maison. Il aurait pu dire à son épouse, mais vas-y, c'est à toi de faire ça, c'est les choses spirituelles, vas-y. Hein, moi, je suis l'officier de roi. Moi, je suis quelqu'un d'important. Mais non, il est allé lui-même trouver Jésus. Troisième chose qu'il fait, il le pria de descendre. Je me demande ce que faisait Jésus. Jésus, il est venu de Samarie en Galilée. C'était une distance un peu longue. Il a marché à pied. Il était sûrement fatigué. Il avait besoin de se reposer. Il demande à Jésus de descendre. Donc j'imagine Jésus, il est assis sur la terrasse de l'hôtel avec sa 1664 ou sa verre de vin ou, pour ceux qui n'y croient pas, de l'eau. Il avait son iPad, hein? Il surfait sur le web. Je ne sais pas s'il avait autant de problèmes de trouver un autre spot à cette époque qu'à notre époque, mais il était là, il cherchait, et il entend une voix. Et c'est un officier de roi, quelqu'un qui était sûrement bien habillé, quelqu'un qui portait les marques de son autorité, qui demande. Vous savez, je rigole, hein, il n'y avait pas d'iPad, c'était une Samsung Tab à l'époque, mais bon. Vous avez vu ça? Moi, j'ai jamais compris. Vous avez vu le symbole derrière? C'est quoi?
C'est une pompe, voilà.
Donc, Apple, c'est la ferme de la pompe. Moi, j'ai jamais compris, c'est une juste côté, hein. J'ai jamais compris comment Ève, elle a pu attirer Adam pour manger une pomme. Les hommes n'aiment pas les pommes. C'est vrai? Mais je sais pas si Steve Jobs était le Job de l'Ancien Testament. Mais je pense que, je sais pas comment il a fait, mais il a dû mettre une apple dans le jardin d'Éden. Et en fait, c'est ça. Je ne sais pas si c'était un iPod ou un iPad ou un iPhone, mais je pense que c'est ça que Ève a utilisé pour tromper Adam. Et donc, attention, parce que si jamais vous voyez que votre pasteur commence à utiliser des produits Apple, ah, c'est le début de la fin. Heureusement, ce matin, il a pris sa parole, sa vraie parole. C'est bien utilisé, c'est un bon signe. Parce que si la Bible est bien abîmée, ça veut dire que l'homme qui lit la Bible, lui, par contre, il est bien restauré. Amen. Donc Jésus, évidemment, il n'avait pas d'iPad, iPod, iPhone, il n'avait pas de hotspot, il faisait pas ça, mais on ne sait pas ce qu'il faisait. Mais tout ce qu'on sait, c'est l'officier de roi, il le demande de descendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, aller voir Jésus, c'était pas juste une petite promenade. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ça c'est le, si ça marche, oui, ça c'est le Sea of Galilee en anglais, donc la mer de Galilée, la mer de Tibérius. Capernaum, c'est là. Et Cana, ils savent pas exactement où c'était, mais ils supposent que c'était là. Et en fait, ça c'est au niveau de la mer, et ça c'est en hauteur, Cana. C'est 33 kilomètres, et c'était impossible de faire dans une seule journée. La preuve, on voit qu'il est parti après avoir vu Jésus. Ses serviteurs le rencontrent sur le retour et c'était le lendemain. Donc c'est une trajet de 3, peut-être 4 jours pour aller voir Jésus. Donc c'est pas n'importe quoi. C'était pas juste sortir de la maison, aller frapper sur la porte de la voisin, demander à Jésus de venir. Non. Il demandait à Jésus de descendre de Cana à Capernaum pour venir guérir le fils qui était malade. Comment répond Jésus? D'abord, il est sceptique. Il lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? Cet homme, cet officier de roi, il représente les adversaires de Jésus. Hérode n'était pas pour Jésus, au contraire. Mais Jésus savait qu'ils étaient intéressés. C'est cet Hérode-là qui a tué Jean-Baptiste. Il savait qu'ils étaient intéressés, mais pas pour avoir la vérité, mais pour voir des signes, pour voir des prodiges, pour voir des choses qui personne d'autre, un spectacle, c'est ça qu'ils cherchaient. Donc Jésus veut vérifier si cet homme est sincère, ou si c'est juste un prétexte pour que Jésus vienne faire quelque spectacle. Et comme ça, il peut dire à son boss, son patron, Hérode, tu vois, moi je l'ai vu, moi, Jésus, il est venu chez moi. C'est un officier du roi, mais c'est d'abord un père. Il dit, Seigneur, descends, viens à Capernaum, avant que mon enfant ne meure. Cet homme qui avait peut-être de la puissance, le pouvoir, il avait l'autorité, il avait la possibilité de faire les choses, il était impuissant en face de maladie de son fils. C'est une crise parce qu'il pouvait rien faire, même avec toutes ses richesses, même avec tout ce qu'il avait comme matériel, même avec peut-être une belle maison, une belle voiture, 10 iPads, tout ce qu'il avait, ça ne pouvait pas guérir son fils. Et donc il va lui-même chercher la solution. Descende, Jésus, s'il te plaît, avant que mon enfant ne meure. C'est le Père qui parle. C'est pas l'officier de roi. C'est pas l'homme. C'est le Père. C'est le Père qui parle avec son cœur. Et Jésus, il a compris, parce que c'est un langage que Jésus comprend. Vas-y, lui dit Jésus. Ton fils vit. Jean raconte dans tout son évangile des rencontres entre les gens et Jésus. Il y a des gens qu'on attend, nous, les lecteurs, on attend qu'ils croient tout de suite, parce que c'est les Juifs, parce que c'est les gens, c'est les brebis naturels de Jésus. Il y a d'autres personnes qu'on n'attend pas. En toute probabilité, en toute logique, un officier de roi, c'est pas lui qui allait démontrer la foi. Mais là, dans cette histoire, le Père crut à la parole que Jésus lui avait donnée et s'en alla. Il est venu pour ramener Jésus. Il avait vu peut-être ce que Jésus a fait. Il croyait dans la capacité à Jésus de faire des miracles. Il pensait que c'était la seule solution. Il est parti pour un trajet de 4 jours. Il ne savait pas si entre-temps son fils allait mourir peut-être. Mais il a pris le risque pour aller le chercher lui-même. Mais Jésus ne descend pas. Jésus reste sur sa terrasse, en train de boire son 1664, son verre de vin ou son bouteille d'eau. Mais il entend Jésus qui parle, qui dit, « Vas-y, ton fils vit. » Et il croit. Est-ce que c'est juste une parole prophétique? Est-ce que c'est Jésus avec son omniscience, avec sa capacité à tout savoir? Est-ce que Jésus simplement dit, « C'est bon, cette guérison, cette maladie, pardon, ne va pas se terminer avec une mort. » Ou est-ce que c'est plutôt la guérison à distance, sans contact? Il ne savait pas ce Père. Il savait juste que Jésus avait parlé, qu'il a reçu la parole, et cette parole était suffisante pour que lui, il repart. Et on voit qu'il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs, ceux qu'ils auraient pu envoyer, s'il avait vraiment l'orgueil de son autorité dans le monde. Il rencontre ses serviteurs et ils disent, « Ton enfant vit. Alléluia. Merci Jésus. » Mais après, il se pose la question, « Mais c'était quand? Ça arrivait quand? À quel moment a-t-il guéri? » Et les serviteurs disent, mais c'était hier, c'était autour de 1 heure. Et l'homme, il est frappé. Il est frappé par la conviction, par la connaissance que là, ce n'était pas juste une parole prophétique, c'était vraiment la guérison. Parce que c'était à ce moment-là, avec sa belle montre tagueur, je ne sais pas laquelle, qu'il avait pour dire le temps, il savait que c'était à ce moment-là, quand Jésus a dit, « Vas-y, ton fils vit. » Il savait que c'était à ce moment-là que son fils était guéri. Alors il crut, lui et toute sa famille. Et c'est ça le deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Amen. Mais il y a un message pour nous ce matin. J'ai une question pour vous. Est-ce que ton fils est en train de mourir? C'est peut-être pas ton fils physique. C'est peut-être ton premier amour pour le Seigneur. C'est peut-être ton couple. C'est peut-être ta relation avec tes enfants. C'est peut-être ta confiance en ta capacité à servir le Seigneur ou à compter pour quelque chose dans le monde. C'est peut-être ton espoir, c'est peut-être ta santé. Parce que nous avons, malheureusement, un adversaire. On oublie des fois. Jean dit plus tard, chapitre 10, que notre adversaire, c'est un voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Par rapport à Jésus qui, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. C'est ça la promesse de Dieu pour nous, les pères, les fils, les filles, les mères. C'est ça la promesse de Dieu. La vie et la vie en abondance. Amen. Et le voleur fait tout ce qu'il peut pour voler, pour détruire, pour tuer ces choses-là. L'officier de roi, il était en train de rencontrer l'adversaire par rapport à son fils était en train de mourir. Mais nous, les hommes, les femmes, les enfants, peut-être pour nous, c'est dans un autre domaine. Mais c'est la même chose. L'ennemi essaye de voler. Il essaye de détruire. Il essaye de tuer. Il essaye de tuer nos mariages. Il essaye de tuer les relations qu'on a avec nos enfants. Il essaye de détourner nos enfants vers les chemins qui ne sont pas les bons. Il essaye de nous voler de notre santé. Il essaye de nous voler de notre espoir. Il essaye de nous voler de tout ce qu'on a, tout ce qu'on devait avoir pour avoir cette vie abondante. Et ça peut s'arrêter ce matin. Ça peut s'arrêter. Parce qu'on peut suivre le modèle de officier de roi. Et on peut décider qu'on va chercher la seule et unique solution qui existe pour ces problèmes-là. Et cette solution, c'est qui? C'est Jésus. Tu sais, on a plusieurs types de rencontres. Il y a des fois que la grâce s'invite. La femme samaritaine, est-ce qu'elle est allée chercher Jésus? Non. Elle est allée chercher de l'eau. Et Jésus y était. Et Jésus a provoqué une conversation avec elle, une conversation qui normalement ne devrait pas avoir lieu, parce qu'elle était une femme, d'une part, elle était samaritaine, d'une part, et les juifs, surtout les hommes, ne parlent jamais aux femmes samaritaines. Ou l'homme, dans le chapitre 5, qui suit, l'infirme de la piscine Bethesda, est-ce que lui est allé chercher Jésus? Non. Il est allé tous les jours pour se mettre au bord de la piscine en espérant qu'un ange va agiter l'eau et qu'il soit le premier entré dedans parce que peut-être à ce moment-là, comme une loterie, il sera guéri. Il n'a absolument pas cherché la bonne solution. D'ailleurs, ça faisait des années, des années, des années qu'il attendait. Jésus s'est invité, la grâce s'est invité pour la femme samaritaine, la grâce s'est invitée pour l'homme de la piscine de Bethesda. Et ils ont été touchés, ils ont reçu ce que Dieu a prévu pour eux. Mais il y a des fois qu'il faut aller la chercher, la grâce de Dieu. Il y a des fois qu'il faut aller la chercher. Donc je sais que je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Et seulement pour moi, parce que vous, dans la région parisienne, vous êtes beaucoup, beaucoup plus avancés que nous dans les régions. Mais nous, les hommes, on est souvent trop passifs dans notre foi. On est souvent trop passifs dans au mariage, dans nos familles. On est souvent trop passifs en face des crises qui viennent parce que l'ennemi veut voler, dégorger et détruire. Et on est là en attente d'attendre que la grâce s'invite. On est ouvert. Si Jésus envoie sa grâce nous, on ne va pas le rejeter. Mais des fois, on n'est pas activement en train de chercher la grâce dont on a besoin. Et des fois, tu sais, Paul, il écrit aux Éphésiens que le bataille, ce n'est pas contre la chair. Et il faut se mettre dans toute l'armure de Dieu pour tenir. Il y a bien des fois qu'il faut tenir. Mais il y a des fois qu'il faut aller dans le camp de l'ennemi et il faut reprendre ce qui a été volé. Il faut le reprendre, il faut le ramener chez nous. Père, on a besoin de quitter notre confort, de notre résidence d'officier de roi. On a besoin de prendre le chemin, peut-être c'est plusieurs jours, peut-être c'est plusieurs kilomètres, peut-être c'est monter dans les montagnes, pour aller chercher la grâce dont on a besoin, pour reprendre ce que l'ennemi est en train de voler, en train de détruire, en train de tuer dans nos vies. Ce matin, c'est notre fête. Ce matin, c'est le jour de dire, ça suffit. Ce matin, je vais quitter chez moi et je vais chercher la grâce du Seigneur. Je vais demander qu'il guérit. Je vais demander qu'il restaure. Je vais demander qu'il délivre. Je vais demander qu'il me redonne les choses qu'il a prévues pour moi depuis le début du monde, pour que je puisse reprendre ma place dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pas juste pour les hommes, hein. C'est pas juste pour les pères. Ça s'applique à tout le monde, mais je pense que les pères, en tant que tête de leur famille, nous avons une responsabilité par rapport à ça. Nous avons un rôle parce que Jésus, il entend le langage du cœur du père. Il entend le langage du cœur du mère également, mais il y a un rôle que souvent on néglige et on a besoin de reprendre notre place en tant que leader spirituel de notre foyer. Amen. Donc si tu es père ce matin, je vous invite à venir devant. Mais avant, on va prendre quelques instants de silence. Et si la parole vous a parlé ce matin, si ce matin vous avez la conviction, vous avez quelque chose dans le cœur qui dit oui, c'est vrai. Dans ma couple, dans ma famille, dans ma santé, dans ma vie professionnelle, dans ma confiance en moi, quelque chose a été volé, quelque chose a été tué, quelque chose est en train d'être détruit. Là, le chemin, c'est pour venir chercher de la grâce. Et donc, décide où tu es, que oui, je vais venir devant. Pas parce que le prédicateur demande, mais parce que je veux que ça s'arrête et que Dieu me redonne les choses qui ont été volées. Amen. Et viens devant. Et on va prier tous ensemble. On va prier pour ces choses-là. Les autres, je vous invite à vous lever. Je vous invite à mettre vos mains. Parce que c'est leur fête ce matin. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de la bénédiction. Ils ont besoin de sagesse. Ils ont besoin de la force. Ils ont besoin de beaucoup de choses pour pouvoir d'abord tenir dans le rôle de père de famille. Ils ont besoin d'encore plus de courage. Conviction. d'aller chercher la grâce. Loin, s'il faut. Pour ramener et pour reprendre tout ce qui a été volé. Amen. Seigneur Jésus, merci pour tous les pères ce matin. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans les vies de ces hommes. Merci pour toutes les bénédictions, pour toute la grâce, pour toute la miséricorde qui se retrouve dans leur famille, chez leurs enfants, chez leur lieu de travail, partout où ils vont en tant qu'ambassadeurs pour toi. Mais Seigneur, je crois, je sais qu'il y a des choses que l'ennemi a volées. Je sais qu'il y a des choses que l'ennemi est en train de tuer ou a tué, et il y a des choses que l'ennemi veut détruire. Et Seigneur, ce matin, nous voulons dire, ça suffit. Et on veut décider ensemble d'aller dans le camp de l'ennemi et de reprendre les choses qui avaient été volées en nom de Jésus. Et donc nous prions pour chacun, quel que soit le besoin, quelle que soit la crise qu'ils ont dans leur vie, que Seigneur, tu viennes par ta grâce, tu descendes avec eux, ou tu prononces ta parole qui dit, vas-y. Ton fils vit. Seigneur, je prie, même pour ceux qui n'ont pas, ne sont pas pères ce matin, je prie, Seigneur, pour eux qui ont également besoin de reprendre ce qui a été volé. Et les hommes, je vous invite à tourner et prier pour les autres. Saint-Esprit, viens. Nous t'invitons ce matin. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les femmes, les jeunes hommes, les enfants, Seigneur, viens toucher tout le monde. Viens guérir, viens délivrer, Seigneur. Viens restaurer, viens redonner ce qui était volé peut-être depuis très longtemps. Seigneur, nous savons qu'en tant que père, on est souvent coupable. On est souvent coupable de maltraiter nos épouses, on est souvent coupable de maltraiter nos enfants. Alors même si ça c'est pas le cas pour nous ici présents, nous repentons, nous demandons pardon pour les pères de ce monde qui ont fait du mal. Et nous te demandons, Seigneur, par ta grâce, par ton Saint-Esprit, de restaurer, de guérir, de redonner à ceux qui ont perdu les choses que l'ennemi a volées, a tuées ou a détruites. Et que non, nom de Jésus, ton royaume vient parmi nous. Amen. Amen. Nous avons un Seigneur merveilleux. Nous avons un Seigneur qui est tout prévu. Nous avons un Seigneur qui veut qu'on soit les hommes, les femmes qu'il avait prévus au départ. Il a les plans et les projets pour nous. Et notre job, notre rôle, c'est simplement de chercher ces choses. Amen. Soyez bénis ce matin.